Vous écoutez
RMC. Face à face.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Maud Bréjon.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes la porte-parole du gouvernement, vous êtes ministre délégué en charge de l'énergie. Je vais évidemment vous interroger sur les propos d'Emmanuel Macron hier soir qui, à l'issue du dîner à Versailles, a promis une bonne nouvelle, que les prix du carburant et du gaz allaient baisser. Mais je voudrais d'abord vous demander si vous avez passé le test cet hiver.
Alors pas encore, mais je le ferai tout à l'heure. Donc je vous enverrai les résultats si vous voulez.
Vous ferez tout à l'heure le test cet hiver pour savoir si vous avez consommé de la drogue.
Question d'exemplarité, on va le demander à nos collaborateurs, on va le demander au directeur d'administration, et donc c'est normal, le Premier ministre l'a fait lui-même, qu'au plus haut niveau de l'État, on montre l'exemple. Encore une fois, le message qui est envoyé, ce qu'on veut dire par cette directive, c'est quoi ?
Des tests salivaires inopinés et obligatoires pour les fonctionnaires, notamment, oui, et les membres de cabinet ministériel.
On a un problème, vous le savez, vous en parlez souvent sur vos plateaux, face au narcotrafic. Le narcotrafic, il y a des vendeurs, et il faut évidemment s'y attaquer, et puis il y a des consommateurs. On ne peut pas ignorer qu'aujourd'hui, les consommateurs de drogue, qui qu'ils soient, et peu importe la drogue dont on parle, ont une responsabilité centrale jusqu'au drame qu'on voit se passer dans certains de nos quartiers ou dans certaines de nos villes. Voilà. Et donc ça concerne tout le monde, ça traverse peut-être plus qu'avant les classes sociales, les secteurs géographiques. Ce n'est plus uniquement dans les grandes villes, c'est aussi dans les petites villes de province.
Mais ça veut dire quoi ça veut
Et donc
dire...
le message qu'on envoie, c'est que pour des questions d'exemplarité, pour des questions d'autonomie dans la prise de décision, notamment au plus haut sommet de l'État, enfin on voit bien ce que tout ça pourrait embarquer comme conséquence,
sur la lucidité, sur la disponibilité mentale quand on prend une décision.
Sur l'autonomie, sur le fait de ne pas avoir d'addiction, de ne pas être dépendant de quelqu'un ou de quelque chose. C'est quand même ce qu'on attend des plus hauts fonctionnaires, évidemment des ministres. Et donc c'est toute cette démarche-là qu'on met en œuvre et on recentre la place du consommateur. On peut pas pleurer le week-end les morts que l'on déplore dans les quartiers dus au narcotrafic et en même temps consommer de la drogue le samedi soir. Ça, c'est pas possible. Et il y a aujourd'hui une hypocrisie qui est réelle dans la société française sur ces questions.
Avec quelles conséquences la question qui se pose, et d'ailleurs elle s'était posée, semble-t-il, lorsqu'un des membres du cabinet du Premier ministre avait visiblement consommé de manière jusqu'à faire une sorte vraiment de malaise, qui était un des conseillers agriculture, semble-t-il, de Sébastien Lecornu. Il n'est plus au cabinet aujourd'hui. C'est ce qui, semble-t-il, a fait prendre conscience à Sébastien Lecornu de cette urgence aussi à dépister. Mais moi, je vous pose la question, quelles conséquences ? C'est-à-dire que si vous répondiez positive à un test salivaire, vous ou quelques membres de votre cabinet, c'est quoi ? C'est un licenciement derrière ?
Je pense que quand vous avez aujourd'hui une dépendance aussi importante qu'une dépendance à la drogue, vous ne pouvez pas rester à des fonctions où vous êtes amené à prendre des décisions pour 65 millions de Français. Voilà. Donc ensuite, c'est à la discrétion du ministre, c'est précisé, tout ça est détaillé dans la circulaire. Mais enfin, je crois qu'encore une fois, on ne peut pas demander l'exemplarité aux Français et en même temps, au plus haut sommet de l'État,
avoir
des dérives aussi importantes.
Est-ce que ça a vocation à être généralisé, y compris dans les entreprises ? Ça a été évoqué.
La question n'est pas posée de cette manière-là. Et vous savez qu'il y a un cadre légal. Mais c'est un message qui est envoyé, encore une fois. C'est un message qui est envoyé, c'est la responsabilité du consommateur.
Est-ce que le haut fonctionnaire, puisque ça a vocation, si je comprends bien, à être fait dans les cabinets, dans les ministères, mais aussi vis-à-vis des fonctionnaires, est-ce que les hauts fonctionnaires devront démissionner ou être licenciés s'ils consomment de la drogue ?
D'abord, on va attendre de voir les résultats.
Non, mais je vous donne un exemple. On en a un sous les yeux. Il y a un an tout pile, l'ancien directeur de l'INA, souvenez-vous, qui a été suspendu après son interpellation pour achat de cocaïne. Il venait de dépenser 600 euros auprès d'un dealer de cocaïne. Suspendu, ça ne veut pas dire licencié. Il a ensuite de lui-même démissionné. Il est membre de la fonction publique, il est énarque, il est, semble-t-il, en tout cas membre de la direction du Trésor. Je ne sais pas si au moment où on se parle, il est revenu à la direction du Trésor ou pas, mais est-ce que, typiquement sur cet exemple-là très concret, est-ce qu'il a vocation à rester membre de la haute fonction publique ?
Il y a trois choses. Il y a l'exemplarité, la morale et le droit du travail. Le droit du travail, il s'applique pour chacun, évidemment, en fonction de votre statut, en fonction de la direction dans laquelle vous êtes. Quand vous travaillez au ministère de l'Intérieur, au ministère des Armées, la situation n'est pas tout à fait la même que dans d'autres
services. Donc ça veut dire qu'au Trésor, on peut être drogué ?
Non, Je dis qu'il y a, encore une fois, le droit du travail qui s'applique et nous devons aussi l'appliquer, chacun le comprend. Et puis ensuite, il y a une question, encore une fois, je le redis, d'exemplarité et de morale. Quand vous parlez sur vos plateaux télé des jeunes qui meurent à coups de kalachnikov dans certains quartiers en France, tout le monde s'en émeut. Pendant quelques jours, eh bien, ceux qui font part de leur émotion ne peuvent pas être les mêmes.
Soyons très clairs, voilà. Maud Bréjon, j'ai parfaitement compris l'aspect symbolique, comme vous le dites, il faut montrer l'exemple.
C'est pas uniquement symbolique.
Je voudrais savoir.
C'est pas uniquement
concrètement,
symbolique. Parce que s'il n'y avait pas de consommateurs, s'il n'y avait pas d'acheteurs, il n'y aurait pas de vendeurs, vous voyez.
Ce que je veux dire, c'est que vous ne me répondez pas.
Mais qui est assez direct.
Le test salivaire pour des fonctionnaires, s'il est positif, est-ce qu'ils peuvent rester fonctionnaires?
Mais aujourd'hui, encore une fois, il y a un droit du travail qui s'applique.
Donc, ils peuvent rester fonctionnaires.
Il y a un droit du travail qui s'applique. Moi, ce que je peux vous dire vis-à-vis des membres de mon cabinet, c'est que c'est une décision ministérielle qui est discrétionnaire. En revanche, j'estime qu'à un certain niveau de responsabilité, vous ne pouvez pas avoir des femmes ou des hommes qui seraient
dans une grande
dépendance.
Est-ce qu'il faut leur interdire de rester s'ils sont testés positifs? Je pense aussi aux élus. Il y a eu le cas du sénateur Joël Guerriau qui a fini par démissionner et qui était non seulement en train de droguer une de ses consoeur, mais visiblement lui-même aussi en train de consommer de la drogue. Il y a eu le député Andy Kerdrat qui a député LFI. Est-ce qu'ils sont toujours, lui il est toujours député, est-ce qu'on peut être député et consommer de la drogue? Alors, vous disiez on a du mal à, c'est aussi une altération de, oui, de la prise de décision.
Oui, je me permets juste de mentionner que dans le premier cas que vous avez cité, il s'agit de soumission chimique.
Tout à fait, mais voilà. Donc alors, je ne parlais pas de la soumission chimique pour laquelle il a été poursuivi de manière pénale. Je vous parle aussi du test. En fait, ce que je veux savoir simplement, c'est est-ce que le test salivaire, c'est juste on fait le test, ou est-ce que c'est on fait le test et ça a des conséquences?
Aujourd'hui, quand vous êtes élu maire ou député, vous avez deux manières de quitter votre mandat. Soit les Français ne vous réélisent pas à la prochaine échéance électorale, soit il y a une décision de justice qui fait de vous une femme inéligible. Donc c'est dans ce cadre-là que l'on se place. Ensuite, je crois qu'on est tous responsables, encore une fois, face à notre miroir, du mandat et de la confiance que les Français nous ont donnée.
Ce sera le signe de la confiance.
Et il y a, encore une fois, des échéances électorales. On revient devant les Français, on leur redemande ou pas leur confiance. Et lorsqu'on fait quelque chose, par ailleurs, d'interdit dans le cadre de nos fonctions, les juges peuvent nous déclarer inéligibles. Il ne s'agit pas... Encore une fois, il ne s'agit pas de pointer du doigt l'ensemble des fonctionnaires qui font, pour l'immense majorité, un travail remarquable. Et pour l'ensemble des élus qui sont dévoués à leurs électeurs et à la population française. Ce que l'on dit, c'est qu'à tout niveau, l'exemplarité est nécessaire.
C'est compris. Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, ministre délégué en charge de l'énergie. Emmanuel Macron, hier, après la signature, donc à Versailles, de l'accord entre les États-Unis et l'Iran, a déclaré « Cet accord permet de mettre fin au conflit. C'est une très bonne nouvelle. Les prix du carburant et du gaz vont normalement baisser. » C'est quand?
Alors, le plus rapidement possible, je l'espère. Vous savez qu'on est évidemment très prudent sur les prédictions d'évolution de prix. Nous, on dit une chose simple. D'abord, c'est une très bonne nouvelle pour les consommateurs, pour les Français qui vont partir en vacances dans les semaines à venir, et une très bonne nouvelle pour les entreprises. Je pense notamment aux entreprises les plus exposées, aux agriculteurs, aux pêcheurs, au secteur des transports évidemment, au secteur du BTP. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, on demande aux distributeurs, dans une logique d'équité, de justice et de bon sens, de répercuter les baisses aussi vite
qu'ils
que
vous
les
ont
hausses
répondu lorsque l'on leur avait demandé
été. Ils
ça.
Se sont engagés à le faire. Je constate que dans la majorité des stations-service, ces baisses commencent à
oui,
se voir.
C'est un centime par jour sur le sans-plomb, c'est le, deux centimes sur le gazole.
Le gasoil mais... n'a pas été aussi bas, le prix du gasoil n'a pas été aussi bas depuis le 9 mars dernier. Voilà. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, encore une fois, pour
est-ce
les Français.
Est-ce que cette baisse,
ça doit continuer
est-ce
à baisser?
Est-ce que cette baisse, à vos yeux, doit retrouver le niveau d'avant-guerre?
Mais ça dépendra de l'évolution de la situation, notamment internationale. Je ne sais pas vous dire sous combien de jours ou combien de semaines le détroit d'Hormuz réouvre, sous combien de jours ou combien de semaines les tankers qui sont actuellement bloqués peuvent circuler. Vous savez qu'il y a un risque assurantiel qui est pris en compte dans les prix. Il y a la question du brut, il y a la question des produits raffinés. Donc il y a l'ensemble d'une chaîne. Pour autant, le prix du baril de Brent avoisine et est passé hier, je crois, sous les $80. Il a été à plus de 120, 130
dollars. Il est à 76 ce matin.
Courant du mois d'avril.
Donc, est-ce que vous dites, voilà, on peut viser que les gens qui pourront partir en vacances en juillet, ou alors ce sera plutôt pour ce d'août, qu'ils auront des prix à la pompe, disons, à peu près de l'ordre de ceux d'avant.
D'accord, je ne peux pas m'engager là-dessus et je mentirai aux Français ou je prendrai le risque de mentir aux Français en m'engageant sur le prix de l'essence et du gasoil à horizon quelques semaines. Ce que je peux dire, c'est que ça a commencé à baisser, que ça doit continuer à baisser, que c'est une bonne nouvelle pour les gens et qu'en tout état de cause, si cet accord se confirme et que tout avance dans le sens que l'on espère, on en voit le bout.
Est-ce que l'aide gros rouleur a été touché par les Français? Est-ce qu'elle est sur le compte en banque des Français?
A été touchée par les Français. Elle a commencé à être versée en début de semaine. Vous savez qu'il faut parfois quelques heures ou quelques jours le temps que ça arrive sur votre compte. Et donc, ces premières aides sont arrivées, commencent à arriver sur le compte des Français.
Est-ce qu'on les prolonge, ces aides?
Il y a 1 million de Français qui ont fait cette demande.
D'accord.
Un certain nombre ont déjà reçu l'aide. Les autres vont les recevoir.
1 million, c'est à peu près ce que vous imaginiez de ceux qui souffraient de ces hausses de carburant.
Écoutez, nous, on a ouvert cette aide pour 3 millions de Français. Il faut faire une demande, évidemment, justifiée d'un certain nombre de critères. Vous le savez, critères de revenus, être en activité et utiliser sa voiture plus de 25 km par jour pour aller travailler. Aujourd'hui, il y a environ 1 million de Français qui ont formulé cette demande et qui donc ont touché ou vont toucher dans les jours à venir cette aide.
Vous la prolongez, cette aide ?
Elle était annoncée pour 3 mois avec un versement unique. Et il y a en revanche les aides au secteur d'activité les plus exposés. Aujourd'hui, 30 000 agriculteurs ont fait une demande d'aide suite aux annonces qui ont été faites. Vous savez, 15 centimes D'accord. par litre d'aide. Pour le bâtiment, c'est environ 1000 demandes. Et pour les transports, c'est environ 850 demandes. Ces aides seront maintenues.
850 seulement ?
8500.
Ah, pardon, parce que j'étais étonnée.
Excusez-moi, ouais. 8500. Ces aides seront maintenues jusqu'au mois d'août. Et on voit que c'était utile.
Quand vous seront maintenues jusqu'au mois d'août. C'est-à-dire que même
c'était
si là,
engagement.
Dans 2 semaines, dans 3 semaines, le carburant
engagement.
Est vraiment baissé,
c'était notre engagement. D'abord, ils ont traversé une période difficile. On s'est engagé en mai à des aides pour 3 mois sur juin, juillet, août. Nous n'avons pas de raison de reprendre aux Français ce que nous avons donné ou ce que nous avons promis. Encore une fois, quand vous avez 30 000 agriculteurs qui sont venus faire ces demandes-là, c'est qu'ils en ont besoin et donc c'est normal d'être à leur côté jusqu'au bout. Maintenant, il faudra aussi tirer les conséquences de cette crise. Moi, je veux redire devant vous qu'on a fait ce choix d'aide ciblée, d'aide respectueuse des finances publiques. Et je crois que c'était la bonne solution.
Mais dans un contexte où ces finances publiques, elles vont largement se dégrader, je voudrais quand même vous rappeler les révisions de croissance à la baisse annoncées hier par le gouverneur de la Banque de France. On passe de 0,9% de perspective de croissance à 0,5%. Parallèlement, l'inflation qui était prévue pour 1,25% est prévue finalement aux alentours de 2,5%. C'est une très mauvaise nouvelle. Est-ce que, honnêtement, le budget tient toujours?
Alors, d'abord, je voudrais finir sur la question des aides en disant une chose. Si on avait écouté, par exemple, le Rassemblement national, il y a 2 mois, on aurait 12 milliards d'euros de trous dans la caisse. Puisque la baisse de la TVA sur l'ensemble des produits énergétiques, carburant, électricité, gaz, c'est 12 milliards d'euros. Voilà. Si on avait écouté la France insoumise, on aurait bloqué les prix avec probablement en ce moment vos caméras en train d'observer des pénuries dans certaines stations-service en France. Et donc la gestion de crise, je le dis, ça demande un peu de sang-froid. Et je crois qu'encore une fois, faire ce choix respectueux des finances publiques, notamment au regard de ce que vous venez de dire, c'était
Je
important.
Vous repose la question, est-ce que notre budget, qui était prévu avec une croissance de 0,9 et qui finalement va se retrouver avec une croissance de 0,5 au mieux, est-ce que ce budget, il tient toujours?
Nous maintenant l'objectif de 5% de déficit. Les prévisions qui ont été publiées ne tiennent pas compte de la réouverture du Z3 et donc d'une relance la plus importante possible, on l'espère, de l'économie et notamment de l'économie française. Pour autant, ne cachons pas aux Français que nous sommes dans une situation qui est une situation difficile, avec un contexte international, un contexte européen qui est difficile. Et donc il faut continuer, encore une fois, à gérer les choses et à gérer l'argent, qui est l'argent des contribuables, avec sérieux, tout simplement.
Maud Bréjon, dimanche soir, fête de la musique, et les Insoumis avaient prévu un grand concert militant Place de la République. La préfecture de police de Paris a décidé de l'interdire. Comment vous réagissez ?
La préfecture de police de Paris est dans son rôle. Elle constate des risques de troubles à l'ordre public du fait d'invités qui ont tenu par le passé des propos
injurieux. Mais pour la plupart de ceux qui sont évoqués par la préfecture de police ne seront pas sur scène.
Des forces de l'ordre, il y a plus d'une cinquantaine de zones pour, encore une fois, nos policiers à sécuriser. Moi, je les remercie du travail qu'ils vont faire dans des conditions qui, pour des raisons d'affluence, pour des raisons de météorologiques, ne seront pas faciles. Et donc, je crois qu'ils font un travail encore une fois essentiel pour l'ensemble,
pas le lieu, pas le jour.
Pour l'ensemble de la population. Et on voit bien dans la réaction de la France Insoumise qu'ils sont encore dans une stratégie de conflictualisation de toutes les décisions, y compris lorsqu'elles sont prises par des représentants de la République. Le préfet de Paris fait un travail absolument remarquable.
Ils ont fait appel à cette décision.
Il prend, et c'est tout à fait leur droit, il prend cette décision pour protéger les Parisiens, pour permettre à ce que ces festivités, parce que c'est d'abord un moment festif, se passent dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Et puis, vous voyez, quand je lis hier la réaction de Jean-Luc Mélenchon et que je vois dans ce tweet qu'au fond, à la fin, le responsable, c'est le président du CRIF, ben, je vois qu'on retombe quand même dans ces vieux travers.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'en pointant la décision, lui, il dit, en fait, c'est parce que le président du CRIF avait critiqué la tenue de ce meeting.
Parce que, vous voyez, Apolline de Malherbe, on est nombreux à avoir critiqué la tenue de ce meeting ou la tenue de ce concert très politique dans un moment qu'on estime.
Mais il a retenu en effet deux responsables à ses yeux, Jonathan Arfi du CRIF et le maire du centre de Paris, Ariel Veil.
Et là encore, on flirte avec quelque chose. On flirte avec quelque chose qui ne dit pas son nom. Mais
ce que vous voulez dire, c'est que ce sont deux non-juifs.
Ben, ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, le préfet de police prend une décision et que pour Jean-Luc Mélenchon, le responsable, c'est le président du CRIF. Alors, je veux bien qu'on nous dise qu'on hallucine quand on voit des divagations à connotation antisémite de la part de Jean-Luc Mélenchon. Mais là encore, on retombe dans une...
Non, ce qu'on voulait dire, c'est que vous êtes prête à vous endosser la responsabilité aussi, avec plein d'autres, d'avoir critiqué la tenue de ce meeting.
Et je constate que de très nombreux responsables politiques ont critiqué la tenue de ce meeting, et qu'à la fin, le responsable, c'est le président du CRIF.
Le maire et les filles Saint-Denis.
C'est quand même,
Le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, a dit chez mes confrères de l'Opinion hier matin que siffler la Marseillaise dans les stades était, je cite, un droit légitime à la réplique populaire. Siffler la Marseillaise quand la France se déshonore par ses actes à l'international, c'est un droit à la réplique populaire, parce que les enfants de celles et ceux qui sont ici dans les grands stades, ils sont aussi citoyens d'ici, mais aussi de là-bas. Comment vous réagissez ?
Ça en dit long sur leur rapport à la République. Qu'un élu de la République qui porte l'écharpe tricolore, donc les couleurs de la République, puisse dire publiquement qu'au fond, il est normal, il est légitime de siffler la Marseillaise. Là encore,
C'est un droit. Siffler la Marseillaise est un droit à la réplique populaire. Voilà l'expression.
Ça, Apolline de Malherbe, c'est pas un dérapage. C'est une stratégie politique. C'est une stratégie de conflictualité. Et une stratégie de sédition vis-à-vis de nos valeurs républicaines.
De sédition.
Oui. D'ailleurs, on a vu un certain nombre de propos de Monsieur Bagayoko allant dans ce sens, remettant en cause
l'insurrection populaire,
remettant en cause les fondements même de notre République.
Ce que vous évoquez, j'imagine, c'est la question de l'insurrection populaire possible.
Notamment.
Voilà ce qu'il disait. Je ne dis pas que c'est souhaitable, dit Bali Bagayoko, mais elle est possible à partir du moment où toutes les digues auraient sauté face à l'extrême droite. Il évoque une éventuelle arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Maud Bréjon, merci d'avoir répondu à mes questions ce matin. Porte-parole du gouvernement et ministre délégué en charge de l'énergie. Vous êtes bien sur RMC BFM TV.